C'est donc la dernière partie de la grande table, Olivia Jesper.
Merci beaucoup Antoine Mercier, vous restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 13h30. L'actualité des idées comme tous les jours dans la dernière partie de la Grande Table. Y a-t-il une communauté musulmane en France? Et si oui, à quoi ressemble-t-elle? A-t-elle un visage uniforme, univoque? Une étude publiée dimanche dernier par l'Institut Montaigne en trace en tout cas les contours. Une approche présentée comme bienveillante par les auteurs du rapport, dont l'objectif est d'accélérer la sereine insertion de la majorité silencieuse, je les cite, et de ramener le plus grand nombre possible de musulmans tentés par l'intégrisme vers des croyances et des idées en phase avec les valeurs républicaines. Et pour ce faire, apprenons donc à mieux nous connaître, coupons l'herbe sous le pied des amalgames, représentons-nous l'islam au quotidien. Une enquête discutée, tant par sa méthode que pour ses résultats et les pistes qu'elle préconise. Et bien justement, on va en discuter encore ce midi et pour en parler, notre invité est l'islamologue, politologue franco-marocain Rachid Benzine. Bonjour à vous.
Bonjour.
On commence toujours cette émission avec une question préalable qui devrait vous parler. Comment allons-nous, Rachid Benzine ? Nous, collectivement.
Nous allons collectivement bien, même si, comme dans un couple, il arrive que de temps en temps, on n'ait pas trop envie de se parler.
Et comment on fait pour recommencer à se parler et remettre un peu du dialogue?
Qu'est-ce
qui fait qu'on n'a plus envie de se parler pour l'instant?
J'ai l'impression que l'on se connaît de plus en plus mal, parce qu'on a du mal à nous expliquer les uns et les autres, je dirais, de manière très sobre et de manière très apaisée, et que aujourd'hui on est beaucoup plus dans des imaginaires, dans des combats politiques, et on est beaucoup sur des principes, on est beaucoup sur l'idéologie et on regarde pas la réalité, on n'est pas du tout dans le pragmatisme.
Donc a priori vous êtes plutôt favorable à tout ce qui nous aiderait à mieux nous connaître?
Absolument, et notamment la connaissance.
Partisan du dialogue interreligieux, chercheur associé à l'Observatoire du religieux de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, des nouveaux penseurs de l'islam, du Coran expliqué aux jeunes, et récemment, 20 ans après, nous avons tant de choses à nous dire, que vous avez co-signé avec le père Christian Delorme. Vous avez publié cette année, en mars, chez Bayard, un second essai à quatre mains, La République, l'Église et l'Islam, une révolution française. Et vous publierez prochainement Nour, pourquoi n'a-t-on rien vu venir, aux éditions du Seuil, un court essai qui répond à une question: pourquoi de jeunes hommes et de jeunes femmes nés dans mon pays, issus de ma culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans un pays en guerre et pour certains tués au nom d'un Dieu qui est aussi le mien? C'est une réflexion sous forme de dialogue entre un père et une fille radicalisée, partie rejoindre son mari en Irak, rencontrée sur Internet. Une réflexion, un dialogue qui vire assez souvent au dialogue de sourds, mais nous n'en dirons pas plus. On va revenir donc sur cette étude, cette enquête menée par l'Institut Montaigne, un think tank libéral. Rapport paru dimanche dernier et qui fait beaucoup parler depuis.
Il y a vraiment une très grande bataille. Cette bataille, elle est culturelle. On est face à beaucoup d'ignorance. Des deux côtés, les non-musulmans et les musulmans. Tout le monde parle de l'islam, personne ne les connaît. Personne ne connaît les musulmans, c'est pour ça qu'on a fait cette enquête. La France est une terre exceptionnelle pour penser l'islam de demain.
On a identifié un groupe qui a, en gros, représente 28%, ce qui est beaucoup, qui a un appétit d'enfermement, voire de sécession, qui veut se mettre à côté des lois de la République. Il va falloir travailler sur ce groupe, hein. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans cette étude.
En France, en République, ce sont les religions qui se soumettent à l'État et pas l'inverse. Quand je vois cette étude, la même que la vôtre, comme quoi près d'un tiers des Français de confession musulmane ne comprennent pas cela, ben va falloir que l'État fasse comprendre que ce n'est pas facultatif, que le respect de la loi de la République, ce n'est pas au choix.
Il faut lutter contre la montée de la radicalité islamique à l'intérieur du territoire national. Et moi, je propose depuis longtemps des solutions. La première, c'est, au fond, c'est un contrôle administratif du culte musulman, comme on a exercé un contrôle administratif sur la religion catholique ou sur la religion juive pendant des années et des années pour la forcer à accepter les règles de la République. Mais il faut faire la même chose.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent parfois être attirés par quelques thèses ou quelques interprétations erronées d'un certain nombre de préceptes de la religion musulmane. mais c'est une infime minorité. La quasi-totalité des musulmans de France, et notamment les jeunes, sont très très attachés à leur pays, la France. Ils sont très attachés aux valeurs de la République. Ils le proclament haut et fort tous les jours.
Moi, je lis d'abord qu'il y a environ plus de 60% qui ne sont pas rigoristes. Il y a un tiers de musulmans qui ne vont jamais à la mosquée, un tiers qui vont aux fêtes religieuses, et il y a 28% qui sont, disons, religieusement rigoriste. Mais là encore, il faut faire attention, on peut être religieusement rigoriste et rien à voir avec le terrorisme. Ce qui est inquiétant, c'est vrai, c'est qu'il y a une tendance de rigorisme chez les jeunes qui augmente, et on dit qu'ils sont entre 18 et 24 ans, près de 50%. Oui. Ça, c'est un véritable problème, une véritable défaite de l'éducation de la République.
Vous aurez reconnu peut-être les voix d'Hakim El-Karoui, l'auteur du rapport de Laurent Bigorne, le président de l'Institut Montaigne, de Thierry Solers, de François Fillon, des Républicains, du président du CFCM, Anouar Kpibesh, et puis de l'écologiste Daniel Cohn-Bendit. Rachid Benzine, sur l'intention, sur la philosophie de cette enquête d'abord, qui vise à sonder les opinions et les pratiques sociales de personnes musulmanes et issues de familles musulmanes. Est-ce que pour vous c'est une bonne initiative? Est-ce qu'on aide aujourd'hui dans un état de méconnaissance à corriger et qui oblige à agir?
Je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où elle nous permet de connaître une partie de la population. Elle brise quand même un certain nombre de tabous, qui est le tabou des statistiques ethniques dans un climat politique qui clame la neutralité tout en ayant des rapports sociaux ethniques concernant une partie.
Qui est plus qu'un tabou, hein, c'est une interdiction réglementaire.
Voilà, c'est une interdiction et donc
légale.
On se retrouve finalement à quelque chose qui est absolument nouveau. Après, on peut discuter sur la méthodologie, mais on voit très bien à travers ce que nous avons écouté que chacun tire les enseignements qu'il souhaite en fonction de ce qu'il veut dire. D'un côté, nous avons ce fameux chiffre de 28% qui est utilisé par certains, et ensuite d'autres vont utiliser d'autres chiffres.
On va y revenir, Rachid Benzine, mais juste sur effectivement la méthodologie, parce qu'elle a été aussi questionnée, voire discutée. Cette enquête, elle a été conduite avec l'IFOP, hein, auprès d'un peu plus de 1000 personnes. Il y a eu une méthodologie qui a été élaborée spécialement pour, qui consiste à extraire, entre guillemets, hein, ces personnes musulmanes ou de culture musulmane d'un échantillon de 15 000 personnes, et puis de tester effectivement leurs sentiments religieux. C'est un simple sondage, a priori, qui est conforme à la loi de 1978, qui réglemente la liberté de traitement des données personnelles, c'est-à-dire la liberté, quelque part, de ficher ou d'interroger les personnes sur ce qu'ils représentent, ce qu'ils incarnent. La méthodologie, elle vous semble contestable pour vous? C'est-à-dire qu'elle implique un résultat biaisé, d'après vous, ou le fait que cette étude réponde à un réel besoin de comprendre, comme vous le disiez, ça donne une photographie certes imparfaite, mais quand même importante.
Et tout d'abord, c'est un sondage avec une marge d'erreur qui est d'abord entre 3 et 7% et l'étude le relève, ça c'est important. Après, il y a une problématique qui est liée aux catégories. À partir du moment où on va définir la pratique de ces Français de confession musulmane. Et quand on regarde le questionnaire, on s'appuie sur des catégories quand même qui sont assez spécifiques de l'appartenance d'un islam assez minoritaire. Si par exemple on prend, c'est souvent l'islam médiatique, c'est-à-dire à travers les catégories du halal, du niqab, de la polygamie. Et ça me semble aujourd'hui...
Et qu'assurer comme autre critère?
Je trouve qu'il y a d'autres critères qui peuvent être beaucoup plus importants. D'abord la question de la langue, la question des règles matrimoniales, la question du droit patriarcal, c'est-à-dire patrimonial en termes d'héritage, le rapport du rituel, le rapport de la langue arabe, qui sont autant d'éléments qui sont constitutifs, me semble-t-il, de la sociologie religieuse, comme on peut la définir aujourd'hui dans tous les travaux de sociologie.
Or, on est parti... Et justement, le rapport, l'enquête entend casser les représentations traditionnelles qu'on peut avoir de l'islam, les représentations médiatiques, peut-être justement en se réappropriant des clichés pour montrer qu'ils ne sont pas toujours valables sur cette histoire du halal, du niqab.
Oui, mais il n'empêche que même si effectivement on montre qu'il y a une hystérie autour de ces débats, des questions du voile, la question du halal, il n'empêche que c'est à partir de ces mêmes catégories qu'on prétend définir la catégorie de ceux qui vont se définir musulmans ou non. Par exemple, il aurait fallu peut-être proposer une question sur le type de lecture religieuse qu'ils font, et notamment à partir de quelle langue Et là, on aurait vu que pour beaucoup, c'est pratiquement la majorité, c'est d'abord la question de la langue française.
Antoine Mercier.
Oui, on peut en venir au fond, justement. Vous parliez, malgré tout, quelles que soient effectivement les critiques qu'on puisse faire, on va dire que cette enquête donne quand même quelques éléments d'appréciation sur la situation. Et vous parliez de ce fameux chiffre qui a beaucoup fait parler, de 28%, qui aurait été 28% de la population musulmane qui aurait adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République, et le chiffre serait beaucoup plus élevé dans les 15-25 ans.
C'est le chiffre qui alarme aujourd'hui, et notamment le Front National qui a vivement réagi contre ce chiffre en disant c'est peut-être autant de terroristes potentiels. Alors là, je cite Robert Ménard sur les réseaux sociaux proches du Front National, Marion Maréchal-Le Pen qui estime de son côté que 28% sur 6 millions de musulmans en France, ça fait presque 1 million de personnes qui seraient contre nos valeurs, Antoine.
Oui, alors c'est ça la question, parce que malgré tout, on a là, dans le discours sur les valeurs de la République qui doivent rassembler tout le monde, y compris les communautés, on a là malgré tout une forte minorité qui remet en cause le principe des valeurs de la République comme surplombant l'ensemble des valeurs religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour vous, ça représente un problème malgré tout ?
D'abord, ce n'est pas une bonne nouvelle et l'étude le montre aussi que ce chiffre est corrélé d'abord à la question de la marginalisation. C'est-à-dire comment des jeunes peuvent être marginalisés d'un point de vue social, économique, et comment le discours religieux va servir comme un discours de rupture. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la question, c'est comment on va définir le rigorisme. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs pratiques à l'intérieur, je dirais, de ce rigorisme. Est-ce que, par exemple, un islam traditionnel va être considéré comme rigoriste? Donc, je dirais, les choix et les critères de ce que nous allons définir comme rigoriste posent problème. Mais au-delà...
Comment vous le définissez, le rigorisme?
Ben, le rigorisme, en tout cas, en termes sociologiques, il y a un certain nombre, de pratiques qui est le fait de ne pas vouloir la mixité. Ça, c'est vraiment un rigorisme. Le fait de ne pas vouloir saluer un homme, une femme. Ça fait partie des pratiques rigoristes. Il y a les pratiques fondamentalistes, il y a les pratiques rigoristes, il y a les pratiques extrémistes. Vous voyez, il y a des nuances et donc il n'y a pas véritablement de clarification sur ce concept de rigoriste. Ensuite, il y a l'islam identitaire et l'islam qui va servir comme un discours de rupture et de provocation. Nous avons vu à travers ce sondage que, par exemple, 28 ou 29% disent que la charia, ce qu'ils entendent, je ne sais pas ce qu'ils entendent par ce concept, parce que c'est un concept imaginaire, médiatique, qui fonctionne et qui fait peur et qui permet une opposition entre musulmans et non-musulmans, même si chacun ne met pas du tout la même chose derrière, comme quoi cette loi serait supérieure aux lois de la République. Alors là, on peut voir aujourd'hui, pour un certain nombre de croyants, et ce n'est pas simplement, je dirais, pour les musulmans, on l'a vu pour le mariage pour tous, beaucoup de chrétiens identitaires français sont sortis dans l'espace public pour manifester, pour dire que la loi naturelle est supérieure à la loi humaine. Et c'est ça, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur le religieux, c'est-à-dire que nous avons une méconnaissance des religions. Il y a ce que Paul Tillich, qui est un théologien protestant, appelle la préoccupation ultime, c'est-à-dire que pour l'ensemble des croyants, il y a quelque chose qui relève de la loi de Dieu qui est supérieure aux lois humaines. Ça, c'est sur le principe théorique. Mais après, il faut savoir ce qui se passe au niveau de la pratique. Et au niveau de la pratique, on voit que les gens adoptent globalement les règles de la République, parce que lorsque quelqu'un subit une violence, il ne va pas couper la main à celui qui lui a volé quoi que ce soit. Il se rend d'abord au commissariat.
Mais on n'est pas justement dans un faux débat, parce que demander à un musulman qu'est-ce qui est plus grand, est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est la République ? Ça n'a pas beaucoup de sens.
Exactement.
Comment passer de la croyance, conserver ce que vous appelez tout à l'heure, cette religion, cette transcendance, qui par définition surplombe, y compris les lois de la République, comment faire en sorte de la maintenir sans que... elle porte atteinte, malgré tout, aux lois de la République.
C'est la question de la croyance critique. Vous savez, il y a deux types de croyances. Il y a les croyances qui font corps, puis il y a la croyance critique, c'est-à-dire cette croyance qui est absolument distanciée, où on doit vous donner les outils d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique, pour que la foi, ça soit une intelligence. c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de la croyance. Et donc, notamment ce qui concerne l'islam, il s'agit à un moment de faire que l'islam ne soit plus simplement un objet de croyance, mais surtout un objet de savoir et de mettre à la disposition de l'ensemble des jeunes, je dirais, ce travail historique que nous avons dans les universités. Et souvent, je le dis, il y a un déficit d'histoire en ce qui concerne nos religions et en ce qui concerne l'islam. Et ce déficit...
Pas seulement chez les musulmans.
Mais bien sûr, mais surtout, c'est-à-dire que on n'a pas encore compris que la laïcité, c'était la séparation entre le religieux et le politique. Mais du coup, il faut que le religieux connaisse, je dirais, le politique, il faut que le politique connaisse aussi le religieux. Sinon, il n'y a plus de dialogue possible. Nous avons aujourd'hui des politiques qui sont devenues analphabètes d'un point de vue religieux. Et mieux connaître les religions, c'est mieux discuter avec elles.
En tout cas, Rachid Benzi, vous ne dites pas, comme Anwar Kbibesh, le président du Conseil français du culte musulman, que ce chiffre est déconnecté complètement de la réalité. Il peut révéler une certaine réalité, d'après vous, et la question est plutôt de savoir d'où ça vient, comment on en est arrivé là.
Il est clair que moi, je ne vais pas remettre en cause, je dirais, le chiffre qui a été donné. Donc, on voit bien que la marge de manœuvre... Mais
et c'est un sondage, hein, c'est une tendance.
Voilà, il n'empêche que ce chiffre est quand même préoccupant, même si on ne doit pas oublier les autres catégories, parce que je dirais, l'échantillon a été découpé en 3. On aurait pu le découper en 10, vous voyez. Puis, on aurait pu étudier les corrélations entre les 10. Donc, on voit bien qu'il y a des nuances quand même à apporter sur ce sondage. Vous venez de le dire, c'est une tendance. Donc, il faut en même temps l'affiner. Mais ça dit quelque chose de nous, ça dit finalement que nous avons une partie de notre population qui est française, qui se sent de moins en moins française et qui, à travers le discours religieux, vient contester, je dirais, les promesses de la République.
Et si les politiques étaient moins analphabètes, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être le dialogue pourrait se réengager. Ça serait quoi la première leçon faite aux politiques sur le religieux?
Bah, tout d'abord, je pense qu'il y a une amnésie sur la présence de l'islam. C'est-à-dire que la France a été un grand empire colonial. Donc l'islam n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Donc il y a la longue histoire. Ça, c'est très important d'intégrer cet élément dans notre logiciel. Et ensuite, ceux que nous sommes en train de définir comme musulmans, parce qu'ils sont musulmans dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane, mais la communauté se crée par le discours de l'extérieur qui va finalement admettre qu'il y a un groupe qu'on va appeler, je dirais, musulmans. Et qu'il y a une déconnexion à faire entre musulmans, immigration et anciens fils de colonisés. Et tant qu'on n'aura pas cassé cette chaîne-là, la représentation de ces jeunes issus de notre ancien empire colonial sera toujours, finalement, cette problématique. Parce qu'en vérité, derrière cette problématique de l'islamophobie, il y a un autre problème qui est issu de notre ancien empire colonial et qui n'est pas tellement de l'islamophobie, mais plutôt un problème avec les Maghrébins. Et donc, je pense qu'à un moment, il va falloir discuter de manière la plus apaisée possible pour lire cette histoire et en même temps pour écrire cette nouvelle histoire qui est déjà là. Parce qu'à partir du moment où vous avez le grand ensemble de gens qui sont sécularisés, qui sont des cadres, qui sont des professeurs, ceux-là, ils n'ont pas de problème. Ils sont déjà en train d'écrire cette nouvelle identité narrative de l'histoire de France.
Alors, y a-t-il une communauté musulmane en France aujourd'hui pour vous, Rachid Benzine?
Il n'y a pas de communauté musulmane en France parce qu'il n'y a pas d'intérêt communautaire. On voit bien que leurs préoccupations, le sondage le montre, c'est quand même des problématiques sociales et économiques. Et on a des gens divers qui se sentent plus ou moins musulmans sans qu'on en ait bien défini. Mais et lorsqu'on leur demande dans ce sondage, est-ce que vous voteriez pour quelqu'un qui est musulman ou d'un point de vue ethnique, ils refusent. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas de communautarisme. Il y a peut-être un communautarisme social et économique qui est lié à des conditions sociales et économiques, mais il n'y a pas une volonté de la part de ce groupe, de se distinguer, je dirais, de la société. Pourquoi? Sinon, il y aurait une télévision musulmane. Il y aurait des magazines musulmans qui se vendraient. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, finalement, ces musulmans sont des Français comme les autres. Et c'est peut-être ça, la réalité que nous avons du mal à intégrer.
Un groupe assez hétérogène, c'est ce que montre aussi cette enquête, ce rapport. Alors, je ne sais pas si cette photographie qu'il en fait vous semble assez fidèle aux réalités de terrain que vous pouvez aussi rencontrer comme chercheur, politologue, islamologue, Rachid Benzine. Un chiffre d'abord, 5,6% de la population française métropolitaine se déclarait musulmane, ce qui ferait relativiser, selon les auteurs de ce rapport de l'Institut Montaigne, le fait que l'islam soit la deuxième religion de France. Une population relativement jeune, des catégories sociales favorisées qui seraient surreprésentées dans les populations musulmanes les plus sécularisées et à l'inverse, ceux dont la religiosité est la plus démonstrative qui sont issus des catégories sociales les moins hautes. Enfin, des jeunes qui seraient plus rigoristes et plus enclins à perpétuer la tradition religieuse de leurs parents que dans les autres religions, chez les catholiques par exemple. Voilà, pour faire une photographie un peu rapide de ce groupe, comme vous le dites, et pas de cette communauté telle qu'évoquée dans ce rapport. Ça vous semble fidèle ?
Oui, en tout cas, ce que je vois et ce que montrent les travaux des sociologues montre que tout ce sondage va dans le sens de la réalité que nous observons. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'idées sont battues en brèche par ce sondage et par la médiatisation de ce sondage, même si effectivement aujourd'hui, au niveau des chiffres, chacun va retenir exactement ce qu'il souhaite. Moi, là où je me pose la question, c'est le timing pour la parution d'un sondage aujourd'hui. J'aurais préféré que ce type de sondage soit publié bien après les élections, puisque on voit très bien que l'utilisation aujourd'hui qu'en fait le Front National, parce que même si on dit qu'il y a entre 3,8 millions et 4 millions, alors que l'INED, il y a déjà deux ans, disait il y a à peu près 4,1 millions, je dirais, de musulmans à travers un certain nombre d'enquêtes. Aujourd'hui, je dirais...
Mais pourquoi, puisque ce sondage entend justement s'en prendre ou quelque part essayer d'empêcher les amalgames et s'en prendre aux clichés actuels sur les musulmans, en quoi le timing vous semble si mauvais? Il serait peut-être temps de s'attaquer à cette question.
Oui, il faut s'attaquer à cette question. Mais par exemple, cette question du 28%, comment elle est utilisée aujourd'hui? Elle est utilisée dans le sens, on voit bien que comment le Front National passe de 28% sur 4 millions à 6 millions. Et donc, si vous prenez les chiffres, ça fait quand même beaucoup. Et donc, dans l'imaginaire, vous voyez, ce sont des gens qui sont contre, je dirais, la République, contre ses valeurs. De l'autre côté, il y a quelque chose qui est quand même... On a un autre groupe qui, lui, a envie absolument de continuer à regarder cette partie de la population comme des victimes et qui a tendance à leur dire « Voyez, ce chiffre-là, c'est une manière de vous stigmatiser davantage. » Et donc, ce qui va être retenu, c'est véritablement ce 28%. C'est pas tellement les gens sécularisés qui ne posent pas problème.
Oui, mais en même temps, vous nous dites aussi que ces 28% représentent ou recouvrent une réalité qu'il faut arrêter d'occulter. Donc, allons-y, sortons-la de sous le tapis.
Mais il y a longtemps, on n'arrête pas d'en parler. Je veux dire, tous les débats sont autour de ces 28%, sur la salafisation des esprits, sur la question du voile, sur la question du halal dans les cantines, sur la question du halal dans les entreprises ou ailleurs. Nous n'arrêtons pas de parler, finalement, de cette minorité-là.
Antoine Mercier, on va en venir aux pistes.
Voilà,
on y va.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
France Culture, 13h18, avec le politologue Rachid Benzine, qui est notre invité ce midi pour discuter à partir des propositions et du constat du rapport de l'Institut Montaigne sur les musulmans de France. D'ailleurs, Rachid Benzine, vous contestez, le terme même d'un islam de France. C'est pourtant une idée qui semblait assez consensuelle jusqu'ici.
Vous savez, la question, il faut faire toujours des comparaisons. Est-ce qu'on parle de christianisme de France ? Ou d'un christianisme en France, d'un judaïsme de France ou un judaïsme en France. C'est-à-dire, nous avons affaire à des religions, je dirais, qui ont une prétention à l'universalité, notamment le christianisme et le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, il y a des Français musulmans, et j'ai envie de dire, et ça s'arrête là, parce que cette idée de France et en France, aujourd'hui, l'islam, c'est une réalité qui est mouvante, c'est une réalité qui est transnationale, et ce qui se passe au niveau international a des impacts au niveau de la société française. Donc, on va pas pouvoir déconnecter les Français de confession musulmane, des lieux de production théologique qui ne sont pas encore en France, les formateurs, nous ne les avons pas encore en France, parce que vouloir un islam de France et que cela donne un certain nombre d'imams que nous voyons sur Internet qui sont en train de dire un certain nombre de choses qui crée des ruptures chez des gamins, c'est ce type d'islam que nous voulons, moi je n'en veux pas en tout cas.
Le rapport étudie un certain nombre de mutations et fait ensuite un certain nombre de propositions comme étendre le concordat à l'islam en Alsace-Moselle, permettre le financement du culte par l'association musulmane pour un islam français qui centraliserait quelque part le produit d'une redevance, équiper juridiquement les collectivités locales pour favoriser l'émergence d'un islam local, élire un grand imam de France, enseigner l'arabe classique à l'école publique, développer, ça vous serait pas contre, la connaissance sur l'islam et notamment à travers des statistiques religieuses, rédiger un ouvrage scolaire d'histoire en commun avec tous les pays où la diaspora musulmane, si on peut dire comme ça, serait, notamment en Europe, mais aussi dans les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, et enfin créer un secrétariat aux affaires religieuses et à la laïcité. Antoine Mercier, question autour de ces propositions.
La question est de savoir si ça vous paraît, en général, des bonnes propositions. On a l'impression qu'il y a à la fois la volonté d'enseigner, de mieux connaître. Je parle, pour penser par exemple à l'enseignement de l'arabe classique que vous souhaitez vous aussi, par exemple, développer la connaissance sur l'islam, tout ça est très bien, mais en même temps, on voit bien aussi la volonté, contrairement à ce que vous sembliez dire tout à l'heure, de franciser un peu ce système de l'islam en France.
Il y a un présupposé qui n'est jamais interrogé, c'est est-ce que les Français de confession musulmane veulent cette organisation-là. Et j'ai l'impression que la plupart des Français de confession musulmane ne souhaitent pas avoir un grand imam, ne souhaitent pas avoir une grande...
C'est l'État qui souhaite ça, hein. Ça a été pareil pour les Juifs.
Non, mais c'est très important parce que c'est le phénomène de sécularisation. Et la plupart des Français de confession musulmane n'ont pas envie d'avoir sur leur tête ou sur leur conscience un grand imam de France qui viendrait imposer la norme. Et je crois qu'il faut être attentif à ce qui existe. Maintenant que l'État ait envie d'avoir un interlocuteur pour, je dirais, l'organisation du culte, je peux le comprendre. Mais là, nous procédons à une étatisation de l'islam, de la religion.
Comment faire?
Je pense qu'il faut faire confiance aux musulmans et de leur dire, vous devez vous débrouiller vous-même et mettre en place peut-être une confédération, comme le font les protestants, pour régler un certain nombre de problématiques. Mais cette volonté d'une mainmise de l'organisation de l'État, par exemple, sur la question du concordat, la question du concordat, elle est impossible parce que d'abord, c'est un héritage de l'histoire. Et dès que vous allez toucher à ce concordat, vous allez réveiller des vieilles tensions. Et au résultat, vous allez arriver à quoi? Au mieux, vous allez arriver à la disparition, je dirais, du concordat en Alsace et Moselle. Et si on fait cela, on va dire, voyez, c'est encore l'islam qui nous pose problème et qui veut absolument que nous changions. Donc nous sommes un peu, je dirais, coincés. Pour moi, il aurait fallu créer une fondation privée. C'est-à-dire qu'un certain nombre de cadres qui sont de confession musulmane, qui ont des entreprises, il faut qu'ils prennent en charge, je dirais, l'image de l'islam. Ce qui est très important, c'est à la fois la question de l'image et la question de la formation théologique et historique d'un certain nombre d'imams.
Bien que tout ça ne va pas émerger de la communauté musulmane, enfin des musulmans de France spontanément, si l'État n'organise pas
ça ne viendra pas tout seul. Cela fait 30 ans qu'il essaie d'organiser. Il était peut-être temps d'essayer autre chose. Parce que ce n'est pas de maintenant. Pierre Joxe a essayé, Nicolas Sarkozy a essayé. Moi, je n'en veux pas à l'État d'essayer d'avoir des institutions. Mais peut-être que la méthodologie, aujourd'hui, pose problème. Lorsque vous mettez une fondation pour les œuvres pour l'islam, et que vous mettez à la place M. Chevènement, il y a un problème.
C'est-à-dire que
c'est un processus d'infantilisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas à la fois organiser, mettre qui vous voulez à la tête. Ça, ce n'est pas pensable. Soit vous partez de la réalité et vous dites aux musulmans, essayez d'avoir quelqu'un qui soit assez représentatif pour gérer tout le processus qui va être lié à la culture, à l'ensemble de la connaissance qui est disponible. Mais vous ne pouvez
pas
toujours...
Donc il aurait fallu une sorte d'élection interne.
Élection interne la plus large possible, en intégrant, je dirais, notamment cette nouvelle génération. Mais à un moment, il faut responsabiliser les gens. On ne peut pas toujours entrer dans ce processus d'infantilisation.
Il y a quand même un contexte, Rachid Benzine, entre le départ de jeunes Français pour le djihad, la radicalisation d'une frange de la jeunesse, des signes de durcissement qui interrogent. On ne peut pas d'un côté reprocher à l'État de rien faire et en même temps lui demander de rester complètement en retrait sur cette question qui nous implique tous collectivement.
Alors,
musulmans et non-musulmans.
Alors, chère Olivia, comme vous le savez, les processus ou les phénomènes de radicalisation ne passent pas par les mosquées. Donc, et il y a beaucoup de jeunes qui ne passent absolument pas par les mosquées, qui passent par souvent des discours qu'ils entendent soit sur Internet, soit avec des recruteurs dans l'espace public. Parce que Internet est insuffisant pour embrigader, je dirais, les gens. Et on voit bien que, en ce qui concerne ces jeunes qui partent, les profils sont très divers. Vous pouvez très bien avoir un jeune de campagne ou un jeune des quartiers, jusqu'à l'ingénieur ou au médecin. J'ai eu l'occasion d'aller en prison et de rencontrer des gens qui n'avaient pas des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Donc à partir du moment où vous avez des jeunes avec, je dirais, un panel aussi large, il faut se poser la question, qu'est-ce que offre Daesh pour les séduire et qu'est-ce que nous pouvons offrir, parce que ça, cela dit quelque chose aussi de notre jeunesse. Et je rappellerai simplement cette belle citation de l'abbé Pierre qui dit qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et donc nous avons un problème avec notre jeunesse.
C'est effectivement cette question que vous posez dans un ouvrage à paraître, Nour, pourquoi n'a-t-on rien vu venir, qui paraîtra aux éditions du Seuil. On attendra qu'il paraisse pour en discuter. Mais effectivement, à travers ça, on se rend bien compte que le dialogue est quand même très difficile avec cette jeunesse. C'est ce que vous semblez, c'est ce qui se manifeste sous votre plume.
Il est très difficile pour diverses raisons, parce que nous avons des jeunes qui sont parfois en rupture, des jeunes qui sont en mal d'identité, des jeunes qui n'arrivent plus du tout à trouver leur place, des jeunes qui sont pleins d'énergie et l'horizon de, je dirais, d'action est complètement bouché. Et nous avons une idéologie très forte de Daesh qui, pour moi, repose sur quatre rêves. Le rêve de l'unité à travers le califat versus la démocratie, le rêve de la dignité face à des jeunes qui peuvent être dans le ressentiment, qui se sentent humiliés, le rêve finalement de la pureté qui peut aller jusqu'à la purification, et le rêve du salut qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et donc nous avons une idéologie en face, et une idéologie qui est contestataire, et une idéologie qui est dans l'hostilité. Et donc du coup qui veut en finir avec notre monde, et il leur propose quelque chose qui est révolutionnaire. Et donc la question c'est qu'est-ce que nous sommes capables d'offrir à cette partie de la jeunesse, parce qu'il y a toute une grande partie de la jeunesse, heureusement, ne tombe pas sous les charmes de Daesh.
Et quand vous dites nous, vous sortez justement cette question-là de la sphère intime et familiale que vous développez à travers cet ouvrage, qui est un dialogue entre un père et une fille. On a l'impression que seul le père peut avoir la réponse au questionnement de sa fille. Mais là, quand vous dites nous, vous acceptez ou vous assumez l'idée qu'il y a une réponse collective peut-être à trouver à tout ça.
La réponse est collective, et c'est pour ça que dans cet ouvrage-là, il y a aussi les impasses, parce que c'est quelque chose de mondial. C'est pas simplement quelque chose qui est local, qui relève de l'intime. C'est quelque chose qui dit quelque chose sur le fonctionnement de notre monde comme horizon. Quelle idéologie nous sommes capables de quel idéal nous proposons? Est-ce que nous sommes à la hauteur des espérances, je dirais, ou des promesses de la démocratie et de la République? Ça, c'est une véritable question.
Quand vous voyez ces jeunes en prison, dont vous parliez tout à l'heure, comment ils reçoivent votre discours? Qu'est-ce que vous leur opposez? Quelles sont les valeurs précisément que vous pouvez, qui peuvent faire contrepoids à tout ce que vous disiez sur Daesh?
Il s'agit d'abord de bien comprendre.
Et comment ils vous perçoivent aussi?
Mais il s'agit d'abord d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et parfois, nous refusons d'écouter ce qu'ils nous ont à dire, même si ce qu'ils ont à nous dire nous fait mal. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un discours radical. La question, c'est qu'il ne faut pas que cela se transforme en termes de violence. Mais les discours radicaux, nous en avons plein d'un point de vue politique, d'un point de vue religieux. Et donc, il y a un moment, il faut accepter, finalement, d'écouter et essayer d'expliquer, essayer de comprendre. Et encore, comprendre, cela ne veut pas dire pour autant justifier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces jeunes qui reviennent de Syrie, la solution, elle sera individuelle. Elle ne peut pas être collective. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre chaque cas et faire un travail en termes d'expérience de vie et le suivre pendant des années. C'est cela qui nous est demandé, et pas le fait de les enfermer tous ensemble parce que nous préparons un groupe qui sera de plus en plus hostile, parce qu'on ne pourra pas les garder indéfiniment en prison.
Et vous, Rachid Benzine, vous n'avez vraiment rien vu venir?
On a vu venir des choses, mais on ne voyait pas cette ampleur. Personne n'a vu cette ampleur.
Merci beaucoup, Rachid Benzine. Un ouvrage à paraître, Nour, pourquoi n'a-t-on rien vu venir, aux éditions du Seuil. Vous reviendrez, j'espère, sur notre antenne pour en parler. Le rapport de la Fondation, de l'Institut Montaigne, pardon, est consultable et lisible en ligne. Merci d'être venu en discuter avec nous ce midi sur France Culture. Merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table, à Claire Maillot, à Clémence Marie, à Farah Kéram, à Inès Magriff, Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc pour les garçons. Merci à Perret Legras, La Grande Table se tweet, se like et se podcast sur franceculture.fr. À demain.